Lucille, 3 heures.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4 heures.
Thank you.
Eh bien, bonjour et à toutes et à tous. René Lavergne à l'antenne donc, de l'émission Quoi de Neuf pour une deuxième partie d'émission. Merci à toute l'équipe précédente d'avoir brillamment présenté donc, ce festival Latitude Contemporaine. On retrouvera cette équipe la semaine prochaine pour la dernière séquence consacrée à la couverture de ce festival. Deux grands sujets dans cette deuxième heure d'émission Quoi de Neuf, donc 17h-18h. Je vous emmènerai dans quelques instants à la Villa Cavrois qui a fêté les 10 ans de son ouverture au public samedi. C'était magnifique. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer les photos là, mais honnêtement, ça valait vraiment le coup. Donc on va en parler avec l'administratrice de la Villa Cavrois, puis la personne qui, aux monuments nationaux, est chef de pôle de communication digitale. Voilà, un petit reportage que j'ai fait là-bas. Il y avait aussi une vidéo dansée avec un DJ qui était amené par le Ballet du Nord, avec un des danseurs du Ballet du Nord qui entraînait une joyeuse équipe. Voilà, une sacrée ambiance et un lieu magnifique. À 17h30, eh bien, on retrouvera quelqu'un qui vient de temps en temps dans cette émission et son nom artistique, son nom d'artiste, c'est Dalton. Et donc, il nous présentera son nouvel album qui sort le 20 juin. Et puis, ce soir, il sera en concert aussi. On aura l'occasion d'en parler avec lui. Et donc, il va nous ramener aussi sa guitare et il nous jouera une ou deux chansons. On verra ça à partir de 17h30. Bonne écoute du 106,6 FM Radio Campus Lille, en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Voilà, aujourd'hui, jour de fête à la Villa Cavrois à Croix. Bonjour.
Bonjour, je suis Karine Gamard, l'administratrice de la Villa. Et nous fêtons aujourd'hui les 10 ans d'ouverture du monument. Nous avons invité différents artistes à faire la fête avec nous et avec nos nombreux visiteurs.
Voilà, donc on l'entend, il y a beaucoup d'animation aujourd'hui. Vous avez préparé cette journée depuis longtemps ?
Alors ça fait effectivement plusieurs mois avec les équipes du monument que nous préparons cette grande journée. On a commencé très tôt ce matin avec un éveil dansé par Sylvain Groux et le Ballet du Nord. Et là, c'est un bal participatif.
Donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. En général, il y a quand même de la fréquentation dans ce lieu qui est très symbolique d'une époque. Peut-être qu'on pourrait raconter un peu son histoire.
Alors cette architecture a été édifiée par Robert Mallet Stevens, l'architecte, en 1932 pour le couple Cavrois, des industriels du textile. Et ce riche couple des Hauts-de-France, en fait, a passé commande de cette architecture emblématique à Robert Mallet Stevens. Il voulait vraiment s'inscrire dans la modernité de l'époque.
Alors c'est vrai que cette modernité, elle a traversé le temps. Aujourd'hui, elle a été, on va dire, remise à la vue du public, rénovée d'une certaine manière. Donc il y a derrière beaucoup d'appui des monuments historiques, j'imagine.
Alors cette villa, depuis plus de 10 ans, donc 10 ans d'ouverture, mais à peu près plus d'une dizaine d'années avant de travaux, donc ce sont de nombreux corps de métier, l'architecte en chef, les entreprises qui ont aidé à la remise en état de cet édifice dans le cadre de sa livraison 1932.
Donc cet édifice a servi de lieu d'habitation, de bureau aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce grand, on va dire c'est presque un immeuble.
C'est une architecture domestique donc pour une famille, mais Monsieur Cavrois y recevait aussi ses nombreux clients.
Voilà, donc un lieu aussi symbolique d'une époque un peu révolue où l'industrie était florissante.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on était première moitié du XXe siècle. Effectivement, l'industrie textile du nord des Hauts-de-France aujourd'hui, là, toute la région était, on avait ce textile était extrêmement florissant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont passé commande pour cette grande villa.
Donc la villa Cavrois, à un moment donné, était un peu délaissée, sinon abandonnée. Depuis, ça s'est, on va dire, remis en forme pour que le public participe aussi à ce monument patrimonial.
Oui, l'idée, c'est vraiment de faire partager au plus grand nombre cette passion pour l'architecture et puis cette vie moderne que proposait l'architecte à la famille Cavrois. Effectivement, la villa a été habitée par la famille jusqu'en 1986 et ensuite, elle a été vendue et puis elle s'est délabrée, elle a été laissée ouverte par des promoteurs qui l'avaient acquise et qui espéraient lotir et faire des programmes. Quand ils ont vu que le bâtiment était classé et qu'ils ne pourraient pas, ils ont laissé ouvert le bâtiment qui a été squatté. Elle a été extrêmement délabrée quand l'État a pu l'acquérir ensuite et lancer son programme de restauration.
J'imagine que ça a dû coûter assez cher, hein, et que donc l'intérêt maintenant, c'est que le public se l'approprie.
Oui, alors ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, 10 ans après son ouverture, c'est que les gens de la région viennent et reviennent et présentent à leurs amis cette architecture comme étant la leur, enfin en tout cas faisant partie de leur mémoire, de leur patrimoine. Donc ça, c'est une grande réussite pour nous. Et puis on essaye de l'ouvrir à tous les publics, à l'international, aux publics qui ont peut-être moins l'habitude de visiter aussi ces monuments.
Est-ce que cet immeuble-là a des correspondances ailleurs en France, sinon dans le monde ?
Alors, il y a de très belles architectures iconiques du XXe siècle, mais ici, on est sur plus de 2400 m² de plancher. On avait vraiment une appellation de château moderne. Donc, cette surface est extrêmement importante et la qualité très exigeante de la restauration en font quand même une œuvre d'exception, tant en France qu'à l'international.
Donc il y a cet immeuble et pas loin de là, il y a un grand jardin qui est classé aussi. On peut peut-être en dire un mot.
Alors, vous parlez peut-être du jardin Malet Stevens. Alors, c'est un jardin qui a été créé en l'honneur de Malet Stevens par les services de la ville de Croix, de manière à avoir un espace vert très aménagé à quelques encablures de la villa.
Donc, on peut dire que ça fait un ensemble où il est intéressant de venir, même se déplacer spécialement.
Alors oui, on peut tout à fait venir à la villa, profiter de son parc, et on a de nombreux jardins. Vous parliez du jardin Malet Stevens, mais aussi le parc Barbieux, qui est à quelques encablures et qui est magnifique également.
Donc cette animation, comme aujourd'hui, pour vous, ce sera tous les 10 ans ou vous envisagez chaque année un gros événement à la villa Cavrois ?
Alors, pour l'instant, on ne s'est pas projeté, mais c'est vrai, quand on voit l'appétence, le plaisir, le sourire, les yeux qui pétillent aujourd'hui, on a quand même très envie de ne pas attendre 10 ans pour renouveler.
Voilà, donc vous devez être assez fier d'œuvrer à la perpétuation de cet endroit et d'en faire un lieu accueillant.
Oui, bah, je partage avec toute mon équipe qui s'est investie. Et c'est vrai que quand on voit le sourire, les gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, qui partagent, on est vraiment ravis.
Bonjour, je suis Charline Guibert, responsable du pôle de la communication digitale au Centre des Monuments Nationaux.
Donc ce lieu, Villa Cavrois, fait partie du patrimoine, je ne vais pas dire mondial de l'humanité, quoique, mais des monuments historiques.
Tout à fait. En effet, il a rejoint le réseau de nos 110 monuments nationaux que nous gérons au sein du réseau, au Centre des Monuments Nationaux. Et en effet, il fait partie de la petite dizaine de villas remarquables que nous valorisons au quotidien. Et c'est un des joyaux des Hauts-de-France. Et ici, on est moi, en plus, étant sensible aux images, c'est un lieu très, très médiagénique où on peut sans cesse faire des photos, le redécouvrir, capter la lumière. Donc moi, sur ma partie communication digitale, ici, c'est un régal des yeux et aussi des images qu'on glane. Et en tout cas, comme monument accompagné, il est aussi très agréable par ses multiples images qu'on peut valoriser régulièrement. Et le nombre de sujets pour faire la promotion de ce monument est incroyable. Il y en a plein. Il y a l'entrée des objets, du mobilier, de l'extérieur, des points de vue, de comment on pouvait vivre au début du XXe siècle, c'était quoi être moderniste. Mais aussi, il y a toute cette question, et le cadre des 10 ans permet de questionner ça, c'est comment on restaure, comment on préserve, comment, par tout un champ de recherche, on essaie de restituer, reconstituer, ou essayer de retrouver quelque chose d'originel, même si tout ne sera jamais comme avant. Donc ce monument questionne aussi beaucoup ça, et les 10 ans permettent aussi, nous, sur nos réseaux sociaux, les sites internet, de raconter cette histoire, puisqu'aujourd'hui, tout paraît magnifique, mais tout a été aussi... on part de rien ou de quelque chose d'extrêmement abîmé et délabré, et voilà. Mais aujourd'hui, on s'émerveille. C'est une journée pour s'émerveiller.
La région de France est très riche en musées. Ce lieu, je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée, quoique.
Il peut être considéré comme un musée parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de choses aussi sur une œuvre d'art totale à la fin des années 20, au début des années 30. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, par la collection et le fait de remeubler, on le remeuble, ce ne sont pas les meubles originaux, mais quelque part, c'est un ensemble. Donc on peut presque le considérer comme le musée d'une époque ou le musée d'une œuvre. Peut-être même un manifeste de Miles Stevens où il a eu une sorte en 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans, de possibilité d'aller très très loin pour tout concevoir, quoi. Du moindre détail, de la visserie aux ouvertures, au choix des sols, des choses plus du design. Donc c'est vrai que c'est presque un musée de cette époque et de cet architecte incroyable.
Alors c'est vrai que dans ce secteur qui fut habité par des riches, on m'a dit qu'il y en avait encore, qui se cachaient. Il y a de beaux endroits comme on va dire le Grand Parc Barbieux. On a aussi le Parc Miles Stevens qui est juste à côté. Ça fait un ensemble cohérent.
Alors oui, ensemble cohérent. Alors moi, je connais pas peut-être encore moins que vous quand même tous ces lieux à les fréquenter quotidiennement. Mais en effet, il y a un ensemble cohérent. Moi-même, quand je suis ici, je pense à d'autres architectures de la métropole. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté le LAM. C'est loin et on est très loin, mais il y a quand même ce rapport aussi à une brique, à des formes qu'on peut retrouver. Donc je suis, dans ce que je connais de cette région, de cette zone du Nord, il y a plein de choses en écho qu'on arrive à relier.
Radio Campus, Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Temps après. Donc je trouve qu'il y a un vocabulaire, oui, de formes d'architecture du XXe siècle dans cette région qui est incroyable aussi, quoi. Même jusque récente, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une architecture du XXe et début XXIe assez incroyable dans cette métropole.
Est-ce que vous ressentez l'effet tourisme de ces lieux magiques?
On voit qu'il y a quand même des visiteurs parfois qui avaient mis sur leur liste de venir à la Villa Cavrois un jour, et ça fait comme partie d'un voyage, une opportunité, ou à un moment ils sont dans les Hauts-de-France parce qu'ils vivent parfois loin, près de Lille. En fait, dans la liste, il y avait venir à la Villa Cavrois parce qu'ils ont vu beaucoup d'images, parce que parfois ils sont sensibles à l'architecture et ça fait partie de leur wish list, comme on dit aujourd'hui, de visites à faire, et un jour ils finissent par venir. Tout à l'heure, dans la journée, on a parlé à des gens qui, parfois, il y en a un qui venait de Lyon, ça faisait 15 ans, 20 ans, il disait qu'il devait venir, et il a saisi l'opportunité de venir travailler dans le Nord pour une réunion et de rester, et il savait qu'il allait venir la voir. Donc, c'est un lieu il y a beaucoup d'images qui circulent, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi les médias, la presse. Et je pense qu'à un moment, ça inscrit quelque chose comme un endroit qu'on veut absolument voir en vrai, parce que déjà, par les photos, il nous marque, il nous intrigue, il nous séduit, quoi. Donc je pense qu'il y a des visiteurs, et puis il y en a, ils reviennent, ils sont venus une fois, ils veulent revenir, et voilà. Donc il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin pour le voir, et même des étrangers, pas mal d'étrangers d'ailleurs, des Belges, des Allemands, de plus en plus apparemment d'Espagnols et d'Italiens, si on en croit les chiffres. Donc voilà, ils donnent envie et ils suscitent de l'intérêt, mais même pour des gens qui viennent de plus loin et qui ne vont pas que visiter le Vieux-Lille ou Notre-Dame de Paris s'il passe à Paris. Donc il y a aussi un peu ce champ-là qui intrigue et intéresse, quoi.
Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier, il y a beaucoup d'animation. Est-ce qu'on profite de votre côté de cette animation pour mettre des images en mémoire pour les diffuser dans des lieux, dans des espaces qui attireraient d'autres visiteurs.
Alors oui, on a, dans le cadre de ces 10 ans, on a mis en place plusieurs campagnes, dont une campagne par exemple avec Artips, qui est une newsletter plutôt dédiée aux, on va dire aux 18-25 ans, pour donner goût au patrimoine ou accès à la connaissance de l'histoire de l'art, avec un sens de la vulgarisation. Mais typiquement, ils ont fait une newsletter qui a très bien marché, diffusée à leurs 800 000 abonnés, des posts. Donc on essaie aussi de transmettre à une, peut-être une plus jeune génération qui, au moment où ce monument a été ouvert au public, était peut-être très jeune et pas forcément empreint de l'avant, de dans quel état il était, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire revivre un lieu. Donc c'est l'occasion de la raconter et aussi de s'adresser à une plus jeune génération qui peut-être n'a pas cette conscience quand on voit le lieu sublime de tout ce qu'il a traversé. Donc on profite aussi de véhiculer des images, de raconter cette histoire d'une autre manière aussi, avec les outils que nous permettent ces technologies et ces nouveaux supports aussi.
Voilà, alors le design, c'est quelque chose qui reste intéressant. Beaucoup de gens ont aussi, les artistes, je pense, sont inspirés par le design, travaillent aussi dans cette. Ici, il y a vraiment de quoi voir, de quoi comprendre une époque.
Tout à fait. Et on voit qu'en effet, il y a des lignes, des matériaux, des effets de matière. Là, on est devant une table qui brille et qui reflète même le ciel de l'extérieur. Donc, il y a aussi tout un jeu que les éléments du mobilier créent sur l'architecture ou avec l'architecture ou avec la nature, hein, les arbres dehors, le ciel. Donc, à la fois, il y a ces objets qui sont très beaux à regarder par eux-mêmes, mais des fois, il y a des objets qui nous aident à regarder l'architecture ici, je trouve. Et c'est un peu la force du lieu. Et donc, on a l'œil qui circule avec beaucoup de formes à observer, regarder. Donc, c'est une lecture à la fois complexe, si on en croit à mes mots, mais en vrai, qui est aisée, qui fait qu'on est tout le temps avec l'œil en mouvement. Et rien n'est figé aussi, parce qu'il y a un effet de lumière qui se reflète et qui change même l'intérieur beaucoup au fil de la journée et selon le temps. Donc, en effet, il y a cet aspect des lignes, des formes qui se renouvellent tout le temps. Et pour les artistes, il y a beaucoup de choses, parce qu'ici, c'est aussi une manière de regarder peut-être les années 30, un type de mobilier, un rapport aux matériaux, un rapport à la technique aussi, si on regarde des manières dont les portes, il y a des endroits où il y a des commodes avec les tiroirs encastrés dans le mur. Enfin, il y a aussi beaucoup de technicité. Et aussi, l'occasion, là par exemple, il y a un accrochage d'œuvres du mobilier national, avec surtout des céramiques. Mais il y a aussi souvent des choses qu'on ajoute et qu'on met en regard et qui permettent aussi de renouveler les choses, puisque comme je disais, c'est un remeublement qui grandit année après année. Mais il y a aussi des invitations et des mélanges qu'on se permet de faire. Voilà, peut-être c'est parce que les Cavrois auraient choisi, c'est pas de leur choix, mais c'est des choses qui rentrent en résonance et qui complètent aussi le goût d'une époque.
On peut imaginer dans ce lieu des expositions temporaires d'objets qui viennent de différents musées, hein, pourquoi pas aussi de designers.
Oui, alors ça a été le cas. Je serais bien normal là comme ça spontanément d'en citer, mais il y en a eu par le passé. Et par exemple l'année dernière, il y a eu Fabrice Hibert qui a pu installer des œuvres in situ. Donc là, on est plutôt avec un plasticien. Mais il y a eu des expériences de mise en regard avec des designers. Cet automne, il y a le FRAC Picardie. Il y aura plutôt une installation liée à du dessin FRAC Hauts-de-France, pardon, qui sera mis en regard avec le mobilier, la circulation. Donc oui, il y a plein de. On voit que c'est un lieu qui inspire, c'est un lieu qui permet des mélanges, qui permet de convoquer plein de disciplines artistiques. Et à l'avenir, il y aura certainement, rien n'est pour l'instant gravé dans le marbre et à annoncer, mais des choses toujours en écho au design contemporain.
Voilà, et avec ces pièces déjà très grandes qui deviennent immenses avec ces jeux de miroirs.
Oui, c'est ça, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on voyait le ciel dans cette table, mais on se voit soi-même, on voit les autres, et je trouve qu'aussi c'est un lieu où on a un rapport aux autres visiteurs aussi, qui est un peu particulier, on se voit, mais en même temps, du coup, tout le monde ralentit, on voit que les gens sont comme à regarder, on ne sait pas trop regarder, et je trouve que même les visiteurs marchent assez lentement, se posent, on voit que chacun regarde des choses différentes, même des angles de vue différents. Et en effet, il y a des jeux de miroirs, des jeux de reflets. Moi, tout à l'heure, j'ai juste regardé un rideau dans l'énorme salle de bain des parents qui est incroyable, qui bougeait. Et c'est très bête, mais je pense qu'on se met dans un état de contemplation assez facilement ici.
Voilà, donc visite plus qu'à conseiller.
Tout à fait, il faut absolument venir voir la ville à Cabra, vous ne regretterez pas, et voire même, vous aurez envie de revenir, parce que quand on vient une fois, on veut revenir.
Sur Radio Campus, un moment assez unique qu'on va vous présenter maintenant, puisqu'il s'agit de la présentation d'un CD qui sera sorti le 20, donc bientôt, et du chanteur qui donc vient de le réaliser. Il s'appelle, alors je ne sais pas si on dit Antoine ou Dalton, qui est son nom de groupe solo. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Donc, heureux de t'accueillir, oui, bien sûr. Donc, on peut dire que tu joues, tu chantes depuis déjà un bon moment dans la région, Hauts-de-France.
Oui, tout à fait, à peu près 9 ans.
Et donc, tu as un style particulier, on va dire doux, un peu mélancolique, comment on peut le présenter ?
Eh bien, oui, chacun ressent, je pense, aussi beaucoup de choses en l'écoutant. C'est ce qu'on me dit quand je joue. Mais de la folk, c'est
oui,
très bien.
Folk, oui, très bien.
Ouais.
Et de la poésie en même temps.
Oui, beaucoup d'émotions aussi. C'est ce qui m'anime et ce que j'essaie de partager à travers ces vibrations-là.
Alors, de temps en temps, tu as aussi des chansons un peu plus rythmées, on va dire, qui donne un équilibre à l'album, c'est ça ?
Oui, exactement, comme la chanson Soulfly, par exemple, avec une guitare lap steel, accordée en open tuning de ré, c'est-à-dire qu'elle est posée sur les genoux et je joue avec une tone bar, qui donne un effet un peu bluesy, un peu américain, on me dit aussi, beaucoup.
Oui, bien sûr, oui. Donc c'est vrai que c'est un style un peu bottleneck, non ?
Oui, tout à fait, c'est ça, exactement, ouais, c'est très proche.
Donc on avait des grands spécialistes de ça aussi en France, hein. Le blues a été une grande époque en même temps que d'autres, la pop et tout, donc il y avait tout un univers musical qu'on retrouve aussi encore maintenant avec des styles très différents et donc des concerts qu'on peut voir notamment en région de France avec des salles à Lille qui s'ouvrent à la fois à des grandes vedettes et puis aussi à des personnes qui y percent et qui développent leur propre projet artistique. Donc comment tu vois ton évolution dans ce milieu de la musique, de la chanson, des concerts et aussi du disque, puisqu'on va en parler?
Eh bien, j'ai envie tout de suite de faire un parallèle avec mon développement un peu personnel. J'ai commencé, c'était une passion, la musique, en parallèle de l'informatique. Et je me rends compte qu'en parallèle de mes différents choix que je peux faire dans la vie, aujourd'hui j'œuvre pour l'intermittence. Et j'ai ce ressenti que les portes s'ouvrent, j'ose un peu plus aller vers les gens. Et j'ai l'impression que les planètes s'alignent, mais c'est surtout lié aux actions que je fais, je pense. Et la chance que j'ai de pouvoir rencontrer des personnes, par exemple pour cet album, c'était la MJC du Virolois qui m'a beaucoup aidé à l'époque avec le tremplin La Sauce Jack. Madame Camara et puis et Clément. Ensuite, Tour de Chauffe, qui a eu beaucoup d'appréciations positives sur ma musique. Et beaucoup d'autres. Après, voilà, j'essaie d'aller à la rencontre des gens. Je pense avoir un peu moins peur de ça. Et les gens ne viennent pas toquer à la maison. Je pense que c'est une chance, mais du coup, c'est à moi de faire le premier pas. Et il y a 9 mois, j'ai commencé à jouer dans la rue et je pensais pas que je rencontrerais autant de personnes. Je le faisais pour le côté un petit peu répétition et un peu comme un challenge de me relever un petit peu quand je joue et d'oser regarder les gens un peu dans les yeux. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont amenées sur ce chemin et c'est que le début, j'ai l'impression. Donc merci à toi de me recevoir, c'est toujours un plaisir.
Hein, bien sûr.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question dans tout ça, mais c'est un beau mélange de tout ça en tout cas.
Peut-être tu peux nous dire un peu plus d'éléments sur Tour de Chauffe, qui est un dispositif professionnalisant qui accompagne les artistes. Jusqu'où tu as été accompagné?
Alors c'était un accompagnement d'un an. Moi j'ai été, j'ai pas été lauréat, mais j'ai été sélectionné sur la partie avant le tour. Et voilà, j'ai eu la chance notamment de faire des ateliers avec la ferme d'en haut. Et puis, d'avoir la chance de rencontrer les différents artistes aussi, certains avec qui j'échange encore beaucoup, comme Rémi du groupe Falvino. J'échange beaucoup avec Lorraine encore, qui est la personne qui s'occupe de la communication et de l'organisation du dispositif d'accompagnement. Ouais, des fois, je me rends pas compte que je peux appeler des gens qui sont déjà dans le milieu, qui peuvent m'aider, et qui ont peut-être plus de recul aussi sur ce que je fais et ce qui peut être cohérent de faire en termes de développement, de pas vouloir aller trop vite et d'apprendre la patience. Je pense que la vie, elle sait bien faire ça. Et pour le moment, je suis vraiment heureux de présenter ce premier disque.
Donc, quand tu joues, tu prends ton temps de t'exprimer, d'exprimer des émotions aussi. Le public, je pense, les ressent. Est-ce que quand tu es en concert, il y a vraiment une communication qui se fait assez rapidement avec le public?
Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup présenter les chansons. Pas forcément toutes, mais j'aime beaucoup les artistes qui le font, donc c'est un exercice aussi qui est intéressant. Et en fait, quand je joue, c'est vrai que j'ai le ressenti d'une temporalité différente. Voilà, d'être en dialogue avec peut-être d'autres énergies ou d'autres ressentis. Et c'est vrai que on me dit beaucoup que ça apaise, que c'est zen, que ça fait voyager, que c'est doux. Voilà, c'est des choses qui reviennent, et des termes qui reviennent souvent. Ça me fait plaisir parce que moi, à la base, si je prends ma guitare et que je chante, c'est pour m'apaiser. Et ça fonctionne pour moi, et aujourd'hui ça commence à fonctionner pour autrui. Mmh. Et j'en suis fier de ça.
Je vois beaucoup de propositions de relaxation, de choses zen, des bols tibétains, voilà, des ambiances acoustiques qui font un peu relâcher le stress, etc., échapper à ce monde un peu sauvage, même beaucoup sauvage actuel.
Oui, c'est vrai, c'est un beau terme, bien choisi.
Ouais. Mm-hmm. Alors, l'ensauvagement, c'est pas que les jeunes gens, hein, c'est la société qui est aussi porteuse de danger, d'une certaine manière. On ressent de la violence globale,
oui, c'est
et
vrai.
Pas seulement locale.
Hein. Oui, après, je pense que il y a un équilibre dans tout ça, où j'ose y croire. Et donc, c'est vrai que si on peut ressentir cette violence d'un côté, eh bien, il y a forcément la douceur de l'autre. Alors, à chacun d'aller chercher. Elle n'apparaît pas forcément là comme ça dès qu'on ouvre les yeux, mais je suis convaincu qu'elle est là.
Donc, c'est de toute façon une proposition que tu fais aux gens, hein ?
Oui, exactement. C'est... Et à la base, cette proposition, je la fais à moi-même. J'ai fait 10 ans d'informatique et c'est un chemin que je referais si j'avais à le refaire. Et aujourd'hui, j'ose en emprunter un autre avec cette expérience-là. Peut-être que j'oserais pas le faire si j'avais pas commencé le chemin avec l'informatique. Mais je suis à une période où je me pose toujours des questions, mais je préfère, comment dire, faire des toutes petites actions, même minime, jour après jour, plutôt que de me laisser envahir par les questions, ce qui était peut-être le cas avant. Et du coup, je joue plus. Peut-être que ça m'aide aussi à enlever un petit peu ce brouillard dont tu parlais. J'aime bien parler de brouillard. Ouais, ça m'aide. Voilà, c'est ça, c'est une épaule que... Une troisième épaule, peut-être, avec la guitare que je me suis forgée.
Donc, la guitare, elle est arrivée quand ? Avant l'informatique ou pendant ?
Alors, elle est arrivée sur le tard pendant mon lycée. J'avais 17 ans. Mmh. Voilà, la guitare, guitare de ma mère, une Epiphone folk japonaise qui était dans la chambre de mon grand frère Philippe qui commençait
Radio
à jouer.
Radio Campus,
la nuit.
Les rediffusions.
L'après-midi à jouer dessus et depuis, elle est encore à la maison. Ma mère me l'a passé, donc merci maman.
Est-ce que tu envisages éventuellement de jouer avec d'autres guitares, si on t'en prête ? Est-ce que tu te sens aussi à l'aise avec d'autres ?
Oui, bien sûr. Alors au début, pas forcément. C'est vrai que il y a comme une relation assez particulière avec cet objet. Quand bien même avec le temps, j'essaie de prendre du recul avec tout ce qui est matériel, mais là, cet instrument... Alors là, j'ai eu l'occasion d'en avoir une toute récente, une Taylor, que je viens juste de me procurer. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement de sons différents, tellement d'instruments aussi qui existent, de sonorités. Donc, c'est en essayant qu'on va trouver celle qui nous plaît, celle qui nous fait vibrer, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. C'est intéressant d'essayer, ouais.
Donc, il existe parfois des façons de jouer où on pose la guitare sur la table.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu veux bien poser ta guitare sur la table ?
Alors, avec celle-ci...
Ça ne s'y prête pas trop.
Elle est accordée en mi, la, ré, sol, si, mi, ouais, il faudrait...
Donc, ça ne va pas aller.
Ouais.
Non, ben, si tu veux bien donc, la prendre, nous
bien
la
sûr.
Présenter, puisque finalement, elle va faire partie de l'émission aussi, cette guitare, hein.
Alors ici, c'est une Taylor en acajou que j'ai testée à Star Music avec Romain, qui a été de très bons conseils, et notamment aussi Gaspard Furlan, qui est une oreille de magicien, j'aime bien l'appeler comme ça, mais un ingénieur du son avec qui j'ai beaucoup échangé, travaillé, grâce à la sauce Jacques et avec Tour de Chauffe également. Et à force d'écouter ce que je pouvais proposer, c'est lui qui m'a soufflé doucement à l'oreille le nom de cette marque. Donc, des lors.
Une six cordes métal. Hein.
Oui, exactement. Et c'est vraiment... J'ai mis beaucoup de temps à tester des modèles. Et en fait, avec celle-ci, quand je joue et que je chante en même temps, eh bien, j'ai envie de chanter différemment. Il y a comme un dialogue qui se fait. Si je joue avec une autre guitare, je ne vais pas chanter de la même manière. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mmh. Et c'est ce qui fait que j'y suis allé, mais... Voilà.
Tu peux imaginer un concert avec plusieurs guitares pour...
Alors, ouais, c'est ce que je fais déjà. J'ai déjà trois guitares quand je joue. Mmh. Il y a une guitare, une Harley Benton blanche, un peu dans le style d'une Gretsch que j'ai récupérée d'un ami avec qui je faisais beaucoup de musique, qui était bassiste, paix à son âme. Et j'ai mis du temps à jouer avec cette guitare aussi. Et aujourd'hui, je la porte fièrement. Et elle sonne vraiment, vraiment bien, très grave, très douce. Ouais, j'aime beaucoup changer de guitare aussi, sur scène.
Qu'on peut vous entendre tous les deux.
Oui, avec grand plaisir.
Avec une chanson que tu vas nous présenter.
Oui. Alors, je vais interpréter la chanson « Here to Stay », qui est en numéro 2 sur l'album « End at the Beginning mm-hmm. ». Et ça parle de... Ça parle de l'instant présent, ça parle de la connexion du corps avec l'âme. Et ça s'appelle Here to Stay.
Je t'en prie.
Merci beaucoup. From now, try to find.
Voilà, en direct. Donc, Dalton, ça fait plaisir d'entendre ce style de musique. Ce que je te propose maintenant, c'est je vais te lancer une chanson et très tu vas bien. Me dire si tu connais ce chanteur et cette chanson. Parce que c'est d'une génération peut-être plus ancienne que la tienne.
D'accord.
Donc, à toi de me
lire. Avec plaisir.
Voilà, on y va.
Allons-y.
Morning has broken like the first morning.
Exact. Mmh. Alors, j'ai ressenti un peu de filiation, on va dire. Il y a d'autres gens, par exemple Donovan, que tu as peut-être connu.
Oui.
Voilà, donc des gens comme ça qui ont marqué, moi, ma jeunesse.
D'accord.
Quand je retombe sur ces ambiances-là, très proche de l'humain, on va dire,
hein,
forcément, ça me parle.
Ça me fait tellement plaisir que Cat Stevens, j'ai découvert avec ma maman.
Oui.
J'écoute encore de temps en temps, même des lives. C'est vrai qu'il y a cette voix, cette émotion presque palpable dès qu'il chante qui est absolument merveilleuse.
Il arrive rapidement à créer un univers dès qu'il démarre sa chanson.
Exactement.
On est aspiré.
Exactement, on est embarqué, il nous tend la main, on la prend et c'est magique.
Alors on est là pour parler de ton album, donc il y a, si je ne m'abuse, combien, 10, 11 titres ?
10.
10, hein ?
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc je vais mettre tout de suite la plage 3 que j'ai trouvée intéressante.
Avec
et
grand
puis
plaisir.
Peut-être la 8 aussi, enfin je ne sais pas, on verra après. D'accord, mais la 3, je voudrais la faire écouter à nos auditeurs, sachant que l'album est prêt pour eux. On dira un petit peu comment le trouver.
Oui, tout à fait.
À partir du 20, hein, on a bien compris.
C'est ça.
Roots.
Avec nous en direct sur Radio Campus Lille. Alors, on entend un peu cette mélopée, on peut dire mélopée, qui se développe avec cette ambiance qui parle à l'âme d'une certaine manière. Je vais faire un deuxième test avec toi.
Avec plaisir.
Et après, je te poserai la question. Tu vas deviner sans doute. Hein. Est-ce que tu vois tes chansons ou la vie en noir et blanc ou en couleur ? Tu réfléchis ?
Ouais, je réponds après.
Alors, on écoute cette chanson en attendant. Ça y est, tu connais cette chanson ?
Non, du tout.
Ah, c'est Donovan, okay. Et la chanson c'est Colors, ça date de 1966.
Donc,
magnifique. Chaque moment de la journée, une couleur.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je te pose la question. Là, c'est le matin, quand tu se réveilles. That's the time. That's the time. Yes, that's the time. I'd love the best. And green is the color of the sparkling corn in the morning. When we rise. Voilà, donc tu rêves en couleur la nuit. Comment tu te projettes après le jour? Est-ce que les couleurs pour toi, en plus de la musique, ont une importance dans ta vie?
Oui. Tout à fait. D'ailleurs, quand je suis sur scène depuis plusieurs années maintenant, j'ai des tenues de couleurs unies. Et en fonction de mes humeurs ou de l'envie ou du lieu, eh bien, je vais choisir une couleur différente. Ce soir, pour le musical, ce sera le jaune. Après, pour reprendre ta question, je pense que le noir et blanc font partie du panel de couleurs. Et il y a des jours où, c'est vrai, on la voit peut-être plus en noir et blanc qu'en couleur. Et d'autres fois où c'est plus en couleur qu'en noir et blanc. Mais je pense que les jours où on la voit en noir et blanc, ça ne veut pas dire qu'il faut voir le positif partout, mais c'est des fois des moments qui peuvent nous aider. Ou quand après, ensuite, avec le temps, parce que souvent avec le temps, et des cycles se forment, la couleur revient, eh bien, un peu comme un apprentissage, un peu comme une leçon. Et en fonction des choix qu'on va faire, peut-être qu'il reviendra plus vite. Mais dans tous les cas, il reviendra. C'est le côté éphémère de la vie, si c'est pas nous, c'est notre entourage ou ce sera autre chose, mais je pense que dans tous les cas il est là et faut pas en faire abstraction, au contraire, mais peut-être essayer de l'accepter.
Alors j'imagine que le public va t'accepter dans tes prochains concerts. On peut peut-être avoir une idée des lieux qui t'attendent?
Oui, alors bah déjà ce soir chez Max, merci à lui de m'accueillir une nouvelle fois. Je crois que c'est le bar à Lille où j'ai le plus joué. Le musical à FIV, 59 rue de Flers. Ensuite, j'ai la chance de faire le tremplin du Foxy Festival à Vingles.
Oui, Vingles.
La semaine prochaine.
C'est pas loin de chez moi, hein. J'habite à Lens. Okay. Peut-être que je viendrai te voir, tiens.
Ce serait avec plaisir, en tout cas j'y serai. J'ai 20 minutes pour défendre mes couleurs.
C'est où exactement?
Alors c'est une très bonne question.
Bon, tu m'envoies l'info. Ouais. Hein.
Mais avec grand plaisir.
C'est une bonne idée.
Et après j'ai une petite tournée dans des campings Utopia en août. J'ai pas encore communiqué dessus, mais ça va être vers Dijon. La fête de la musique, je vais à Strasbourg.
Oui.
L'ouverture d'un restaurant, c'est pareil, c'est une rencontre que j'ai fait dans la rue en jouant. La personne a aimé, était en vacances à Lille, juste avant le Nouvel An, c'était le 31 décembre 2024, rue de Béthune. Et elle me dit, fête de la musique, j'ouvre mon restaurant, est-ce que tu veux bien venir à Strasbourg?
Super.
Forcément, j'ai dit oui.
Eh bien, d'automne, on va te souhaiter de beaux voyages.
Oui, merci.
En noir et blanc et en couleur.
Oui, magnifique.
On va se quitter sur cette chanson, tu peux peut-être nous la présenter? C'est la huitième, donc pour moi c'est Soulfly.
D'accord. Alors, c'est une chanson qui parle de. C'est un peu comme une danse des âmes. Et voilà, c'est une chanson que je joue ce soir au musical.
Merci.
Merci,
très belle
René.
Soirée à toi.
Merci beaucoup.
Voilà, l'émission Quoi de Neuf est terminée. On se retrouve la semaine prochaine à 16h-18h sur Radio Campus Lille 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Dans quelques instants, eh bien, on va parler de Villeneuve d'Ascq.
Juste, il est 18h.